L'amorce. L'amorce avec Jean-Simon Buis.
5h pile, déjà le milieu de la semaine. On est mercredi, le 11 décembre 2019. Et qu'on le veuille ou non, on est exactement pile à 2 semaines de Noël. Dans 2 semaines, ce sera Noël, ben oui. On y arrive tranquillement pas vite. Et on a eu droit hier à une espèce d'intermède printanier en termes de température. On se serait cru quelque part comme le 27 mars, en tout cas en matinée jusqu'au début de l'après-midi. On a pogné 7 degrés, la neige a fondu. C'était un peu bizarre comme température, mais c'est pas long que ça a refroidi. Vous avez peut-être senti les vents se lever assez vite hier en fin de journée. Et là, on les sent, les vents, ce matin, on est de retour en hiver. C'est officiel. Maximum de moins 9 degrés qui est prévu aujourd'hui avec du soleil. Donc quand même une journée ensoleillée et agréable. Demain, jeudi, c'est du soleil également. Avec moins 10. Vendredi 13 décembre, un autre vendredi 13. On en a eu deux, je pense, cet automne, en septembre puis en décembre. Vendredi, donc 13 décembre, maximum de moins 3 avec des nuages. Et à long terme, du temps assez doux qui est prévu. Samedi, on revient au-dessus de zéro avec 2 degrés comme maximum. Et quand je regarde à long terme, il n'y a pas vraiment d'accumulation de neige qui est prévue. Ce qui commence à nous faire demander si le Noël qu'on pensait très, très blanc parce qu'on a eu de la neige très tôt en novembre va l'être autant qu'on pensait. Ça se peut qu'il y en ait un petit peu moins finalement que prévu. À part la grosse accumulation qu'on a eue, on a eu une tempête. Après ça, on a eu quelques petites chutes de neige, mais par la suite, ça a été assez tranquille côté accumulation de neige. Et là, on prévoit des possibilités de pluie dans les prochains jours aussi. Alors, quelle couleur sera le sol? À vous de parier pour le temps des fêtes. Et présentement, on a moins 11 degrés à Québec. On ressent avec les vents, et on les sent les vents ce matin, moins 18 environ. D'abord, un fait divers relativement important qui s'est produit hier. Vous avez peut-être vu, si vous êtes passé hier soir dans le secteur de Loretteville, secteur du boulevard Johnny Parent. Il y avait un barrage policier important, un important périmètre de sécurité. C'est qu'il y a un homme dans la trentaine qui a été agressé à l'arme blanche dans le secteur. Les policiers sont intervenus sur le boulevard Johnny Parent vers 19h45. C'est près de la rue Irénée-Frenette. Rapidement, ils ont établi périmètre de sécurité, comme je vous disais. On a fait venir des chiens pisteurs. La victime, on l'a transportée en centre hospitalier pour soigner des blessures, mais on craindrait pas pour sa vie. Et pour le moment, il y a toujours pas de suspect qui aurait été arrêté dans cette affaire. Donc c'est pour ça, si vous êtes passé dans le secteur, vous avez vu un branle-bas de combat des services d'urgence. Dans l'actualité, beaucoup de choses ce matin. On n'aura pas le choix de reparler du tramway, hein, parce que ça a pris beaucoup de place, plus précisément 1200 pages. C'est la grosseur du rapport qui a été déposé par la Ville de Québec et rendu public hier. C'était le rapport d'impact sur l'environnement. Mais impact sur l'environnement, c'est pas seulement sur les espèces animales, les arbres, l'environnement en tant que tel, c'est aussi sur l'environnement urbain, sur les automobilistes en tant que tel, le trafic qui va être impacté de façon importante pendant un chantier qui va durer 5 ans. Entre 2022 et 2026. Donc, c'est vraiment des impacts importants. Attelez-vous, là, on a eu quelques détails, mais on a eu aussi la confirmation de la part de la Ville que ce serait pas évident de circuler dans la Ville de Québec pendant ce chantier-là. On parle de bouleversement, on parle de changements importants dans la configuration d'artères importantes. Il y a des travaux notamment qui sont prévus sur Hochelaga, vous en avez peut-être entendu parler, mais pour essayer de faire en sorte que le transport en commun puisse passer de façon un peu plus évidente là, pendant les travaux. Mais ce qui est certain, c'est que si vous êtes dans une voiture, vous allez le ressentir pendant les travaux du tramway. On a plusieurs points saillants dans le Journal de Québec ce matin, notamment sur la circulation perturbée, sur le fait qu'on va métamorphoser des artères très connues, très importantes de la ville, comme le boulevard Laurier, qu'on veut réaménager, on va en profiter pour ajouter de la végétation, des aménagements paysagers. On sait que le tramway va circuler au centre. On parle des tunnels aussi, hein. Il faut savoir que dans Saint-Roch, il va y avoir un tunnel dans le secteur du parc Jean-Paul Lallier. Une sortie de tunnel, ça va changer pas mal le paysage urbain, ça aussi. Et en plus de ça, ben il va falloir faire des acquisitions de terrain et peut-être passer par des expropriations. On veut y aller de gré à gré d'abord là, pour essayer de minimiser les inconvénients, mais ça se peut qu'il y ait des expropriations importantes aussi. Donc, je vais vous laisser entendre l'administration La Baume un peu sur ce dossier-là. D'abord, Rémi Normand, le président du RTC, qui parle de ce qu'on va tenter de faire du côté de la ville pour minimiser les inconvénients.
Quand on vous parle d'Hochelaga, là, c'est pas pour rien qu'on vous parle d'Hochelaga aujourd'hui. Là. C'est parce qu'on sait qu'on va en avoir besoin durant la phase de la construction. Alors, il faut qu'à la ville et même au RTC, qu'on prévoit qu'il va y avoir des épisodes de congestion difficile, puis il faut qu'on puisse offrir aux gens qui veulent se déplacer sur le territoire des options de déplacement. Si on va renforcer le transport en commun, c'est dans notre tête, c'est clair, clair, clair. Il faut qu'il y ait plus de bonification de transport en commun, surtout durant la phase de construction, pour qu'on puisse dire aux gens, bien, si vous sentez que vous êtes pris dans le trafic, vous avez des options. Il y a d'autres façons de se déplacer sur le territoire. Et on a mis des voies additionnelles pour, justement, pallier cette situation-là.
Donc, une partie de la solution pour empêcher la congestion automobile pendant la phase de construction du tramway, c'est de passer par le transport en commun?
entre autres choses, moi, je forcerais pas les gens, là. Je le dis depuis que je suis là. Je suis pas là pour casser des bras pour que les gens changent leur comportement puis aillent vers le transport en commun. Je suis là pour dire aux gens, s'il y a des plaintes, il y a d'autres options qu'on a mis à votre disposition.
Mais même la rapidité et la qualité du service du transport en commun, il va avoir des impacts importants. Là, vous comprenez que sur Laurier, sur René-Lévesque, là où passent les métrobus, le 800-801 notamment, ben il risque d'avoir des problèmes dans le service aussi. Puis on le mentionne d'ailleurs, ces parcours-là vont être touchés par les travaux pendant les 5 années que vont durer les travaux du tramway. Donc ça va être vraiment, même pour le transport en commun, c'est certain que ça va faire mal. Il va y avoir des artères bouchées, des fermées, déviées. Donc c'est certain qu'il va y avoir énormément d'impact dans les alentours des travaux. Et ça va occuper une bonne partie du centre-ville de Québec. Régis Labeaume s'est prononcé aussi, le maire de Québec, sur les impacts dans la circulation de ces travaux pour le tramway.
Ah ben oui, c'est sûr, quand on construit, c'est toujours dérangeant. On n'a jamais nié ça. Puis ça, c'est dans tous les projets. Il se construit des choses sur le résidentiel, le commercial. Surtout un résidentiel, ça dérange. Alors, c'est sûr que ça va être dérangeant pendant les travaux. Mais il faut voir au-delà de ça. Alors, si on fait... Comment dire? Si on n'a pas d'argent, on ne fait rien, on ne dérangera pas personne. Si on a de l'argent, ben c'est toujours dérangeant dans les travaux, mais ça va se terminer un jour. Ça va créer du souci, il n'y a pas de doute, là, mais bon, on a la chance d'avoir eu 3 milliards de gouvernement pour améliorer notre sort pour les prochaines décennies. Alors, ça va être un peu dérangeant, mais c'est la vie. Regardez, c'est pas la première fois que c'est dérangeant. Depuis 12 ans, on en a construit des choses. Là. Puis à la fin, on est toujours heureux de voir ce qui est construit, puis ça améliore notre vie, ça améliore notre quotidien.
Oui, mais c'est sûr que c'est pas pour rassurer les automobilistes. Marquez qu'on le savait un petit peu, là. C'est certain qu'on, dans les grandes lignes du projet, on a des bonnes idées que ça va être difficile de circuler à Québec dans plusieurs secteurs suite à ces travaux-là qui vont s'échelonner sur plusieurs années aussi. Donc, c'est nouveau parce qu'on a plus de détails sur les impacts environnementaux. En passant, ça devrait procéder, là, au BAP en 2020, là. Mai-juin 2020, ça devrait passer devant le Bureau d'audience publique sur l'environnement, là, si tout est approuvé par le ministère de l'Environnement. Et on prévoit commencer les travaux en 2022. Mais ce qu'il y a de nouveau hier, c'est, ben, souvenez-vous, les fameuses audiences publiques là, sur le réseau structurant de transport en commun. À fin du printemps, début de l'été, là, au mois de juin, il y a eu, je pense, 3 séances d'information publique. Puis les gens se déplaçaient quand même en grand nombre, puis avaient des questions très judicieuses, très pertinentes sur les impacts sur leur vie, puis sur leur environnement avec le tramway. Et on avait de la misère du côté de la ville à répondre à certaines questions, puis on se demandait, coudon, ils sont-tu prêts? Ils ont-tu pris le temps vraiment de détailler tous les impacts, toutes les circonstances qui vont être changées par ces travaux d'environnement? Envergure-là. Puis parfois, on se posait vraiment la question s'il y avait des informations qui étaient peut-être même inconnues de la ville elle-même, puis des responsables du projet. Et pour la première fois hier, le maire Labeaume a fait en quelque sorte un mea culpa par rapport à sa stratégie de communication, en tout cas de la stratégie de communication de l'administration Labeaume, notamment pendant les séances d'information publique.
Non, c'est juste que dans un projet de même, si tu n'es pas transparent, tu te fais cogner sur le nez. Il ne faut pas y penser aujourd'hui avec toutes les méthodes. Vraiment, les gens sont scolarisés, informés, avec toutes les capacités de trouver de l'information. Comment penses-tu ne pas être transparent? C'est juste du tout, on y va par étapes. On a construit un bureau de projet, c'est d'ouvrage. On n'a pas été bon en communication cet été, c'est évident. Là, on a sorti 5 études. Il y a des étapes là-dedans. Et là, avant les fêtes, là, toutes les questions auxquelles on peut répondre, on va répondre.
Cet été, faites-vous référence aux travaux sur route de l'église où vous n'avez pas été bon?
Non, je parle dans les assemblées publiques. On n'a pas été bon.
Ça n'a pas bien été.
Non, je crois qu'on n'a pas été bon. Puis bon, je ne veux pas blâmer personne, mais c'est là. Alors, on pense qu'on a repris le dessus.
Non, mais on sent quand même un changement de ton, là, M. Labeaume, que vous admettez ça, que vous prenez la peine hier de dire.
Calme un petit peu, là, quand on ne crie pas. C'est juste qu'on est prêt. La différence, c'est qu'on est prêt.
Au mois de juin, vous ne l'étiez pas lors des séances d'information?
On commençait, mais là, on est prêt.
C'est rare qu'on entend le maire Labeaume dire on n'a pas été bon ou on n'est pas bon. Hein? C'est assez. C'est peut-être pas la première fois, mais c'est pas tous les jours qu'il admet avoir fait une erreur réelle. Mais je pense que c'est déjà une bonne chose de le dire. Là, il y a beaucoup de citoyens qui n'ont pas été satisfaits du tout des informations que la ville a livrées pendant ces séances de consultation publique là. Alors voilà, c'est ce qu'on sait pour un petit peu le tramway. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme impact dans la circulation? Il va y avoir d'autres informations. La ville de Québec a dit que pendant les prochaines semaines, on allait tenter de répondre à toutes les questions, y compris celles de l'opposition. D'ailleurs, je pense qu'il y a un comité plénier aujourd'hui, donc on n'a pas fini de parler du réseau structurant de transport en commun. Tant qu'à être dans le registre des pas très bonnes nouvelles, on va parler de Desjardins un petit peu. C'est rare qu'on en parle en bien ces temps-ci parce que récemment, on apprenait que c'était l'ensemble des clients Desjardins qui ont des comptes Desjardins qui étaient touchés. Donc, ça touchait 4,4 millions de clients au total. Donc, tous les particuliers, toutes les entreprises qui avaient des comptes de banque avec Desjardins étaient touchés par les fuites qui viennent d'un ex-employé en passant là, qui aurait utilisé d'une stratégie pour avoir accès à toutes ces données-là. Et là, hier, il y avait un point de presse du président du mouvement Desjardins qui est Guy Cormier, et qui a appris qu'en plus des comptes de banque, ben c'était également les clients qui avaient des cartes de crédit et les clients qui avaient des dossiers d'assurance chez Desjardins. Donc là, vous passez de 4,4 millions de clients touchés à 8,2 millions de clients. Aux dernières nouvelles, au Québec, il y a pas mal 8 millions de personnes. Je pense que c'est à peu près l'équivalent de tout le monde qui est touché. Là. Pas que tout le monde a un produit Desjardins, mais vous comprenez que ça se recoupe aussi. Là. Mais 8,2 millions de clients au total chez Desjardins qui sont touchés. Alors, c'est pas compliqué. Du côté de Desjardins, on a décidé d'offrir leur fameuse protection de surveillance de crédit via Equifax pendant 5 ans à tous les clients, que ce soit assurance, carte de crédit, compte de débit. Alors, tout le monde est touché, mais c'est un peu surprenant de se rendre compte qu'au fur et à mesure, à des mois qui avancent, ben, au départ, on pensait que c'était une certaine proportion. Là, on a appris que c'était tous les gens qui avaient des comptes. Et là, on apprend que finalement, c'est tout le monde. Pourquoi ça prend autant de temps à avoir ces informations-là? Ben, d'après Guy Cormier, c'est pas tant que la police les a contactés en disant, ben, on a appris de nouvelles informations. C'est juste que au fur et à mesure de leur démarche, ben, découvrent que la faille était réellement complète.
Ce ne sont pas les policiers qui nous ont appelés en nous disant « Ah, savez-vous quoi, là, il y a des données dessus, il y a des données de ça. » Je vais être très, très clair là-dessus. C'est vraiment nos analyses internes au cours des derniers temps qui nous ont emmenés à des constats de voir quels sont les renseignements personnels auxquels cet employé malveillant a pu avoir accès dans le cadre de ses fonctions.
Grosso modo, il y a accès à tout. Sauf que, bon, ce qu'on dit du côté de Guy Cormier, c'est qu'apparemment, il n'y a pas eu de fraude par carte. On n'a pas accédé nécessairement au compte en tant que tel parce qu'il n'y avait pas les mots de passe qui étaient inclus là-dedans. Mais bon, sachez-le, tout le monde est touché chez Desjardins. Je vais prendre les quelques minutes qui me restent avant la pause pour vous parler d'un dessin important hier. C'est celui de Jean Pagé, l'animateur et journaliste sportif bien connu qui s'est éteint à 73 ans hier qu'on a appris son décès après une très, très longue lutte contre le cancer. Lui avait été diagnostiqué à l'âge de 49 ans, imaginez, du cancer de la prostate. Et les hommages ont fusé en grand nombre hier, et avec raison, parce que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de place dans le paysage médiatique sportif québécois. Pour faire un résumé de sa vie, je vous propose d'écouter un reportage qu'a préparé Annie Guillemette, notre collègue à Montréal.
Jean Pagé a presque toujours été dans le paysage médiatique québécois. Dès l'âge de 18 ans, alors qu'il fréquentait le petit séminaire de Chicoutimi, il prend le micro pour une radio de l'endroit. Il sera tour à tour journaliste et animateur aussi à Radio-Canada Québec avant de faire le saut vers le sujet qui l'occupera à temps plein pendant des décennies, les sports. Pendant 30 ans, on le verra couvrir les Olympiques, la Coupe du monde de soccer, la F1, mais on le connaît surtout pour l'émission de hockey par excellence.
De Montréal, la soirée du hockey Molson vous présente le 5e match de la série finale de la Coupe Stanley.
Par la suite, Jean Pagé passe à TQS pour animer pendant plusieurs années l'émission sportive 110%. Au cours de sa demi-retraite, il continuera à donner des conférences et à s'impliquer pour la prévention du cancer de la prostate, la maladie qui a changé sa vie.
Et je pense qu'on a aidé beaucoup les hommes. Je crois énormément à la solidarité humaine.
Jean Pagé était père de 4 enfants. Annie Guillemette pour Cogeco Nouvelles.
Comme je vous le disais, il y a eu plusieurs réactions qui ont été émises par des gens qui l'ont côtoyé au fil de sa carrière professionnelle et également de sa vie personnelle. Notamment Michel Bergeron, l'ancien entraîneur de hockey qui lui a travaillé longtemps avec lui lors de l'émission 110%. On l'écoute.
Même si on s'y attendait, on est triste du départ de Jean. Pour moi, Jean a été plus qu'un copain de travail. Ça a été... un ami, je garde l'image d'un sacré bon gars.
Un autre de ses collègues de longue date, là, René Poitier, qui a travaillé notamment pendant les Jeux olympiques, plusieurs éditions des Jeux olympiques avec Jean Pagé, avait de bons mots également pour Jean Pagé.
Je veux rendre hommage aujourd'hui à l'homme qu'il était derrière les caméras, toujours de bonne humeur, cordial, sympathique, mais surtout, il avait très à cœur le bien-être de tous et chacun.
Et je voulais mentionner cette semaine, notre premier ministre François Legault est du côté de la Californie cette semaine, une plus belle température que nous un peu, là. Mais il est en train de visiter différents studios et des compagnies importantes dans le domaine de la cinématographie, du divertissement pour tenter de les attirer vers le Québec. Mais évidemment, il a été questionné par les journalistes québécois qui étaient sur place hier sur le décès de Jean Pagé et voici ce qu'il avait à dire.
Pour moi, évidemment, c'est la soirée du hockey, c'est 110%. C'est les Jeux olympiques. C'est quelqu'un qui était toujours souriant, sympathique. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à quelques reprises. Puis c'était un homme qui est facile d'approche, qui était apprécié de tous ses collègues de travail.
Voilà, il est 5h15. On prend une courte pause. Restez là.
La chronique de Pierre-Yves McSween dans Bouchard en parle.
Lundi au vendredi, 7h25.
Au FM 93.
La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsberg Gingras. surmonter vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsburg-Gingras. Ginsburg-Gingras.com/dette.
Passe-temps 3000, c'est plus de 50 ans dans le monde du jouet. Un inventaire époustouflant de modèles à coller, téléguidés, jeux de société, pistes de course, autos de collection. En veux-tu du choix? Enveloppe. Allez voir mon ami Marc, un pro pour vous conseiller. Passe-temps 3000, la fleur de lys, entrée 1.
Pour vendre ou acheter, je vous présente Patricia de Guara.
Vous voulez que votre transaction soit un succès? Faites affaire avec les meilleurs. J'ai la même passion depuis 25 ans et à force d'audace, avec mon équipe, on vend.
Contactez Patricia de Guara. Visitez patriciaetsonéquipe.com.
Oui, décembre, c'est le mois des parties et je vous dis que ça va chauffer chez Beaupar Hyundai. Avec un taux de 0% en location ou financement, plus 500 $ en crédit pour pneus d'hiver sur modèles sélectionnés. 90 jours sans paiement sur tous les modèles. Et jusqu'au 2 janvier, vous recevez en plus 500 $ en bonus de fin d'année sur les véhicules en stock sélectionnés. Procurez-vous le Tucson 2020 à 70 $ par semaine en location 48 mois avec léger comptant.
Toujours et seulement chez Beaupar Hyundai.
Rue Clémenceau, c'est 66-2000.
Votre sel ou votre tablette est brisée. La vitre, connecteur, batterie, passez chez Tellution. Votre sel sera réparé en 15 minutes. S'il n'est pas réparable, choisissez un nouveau sel récent à partir de 99 $. Il y a 5 Tellution à Québec. Stationnement facile, dont le nouveau à Beauport, sortie seigneurial.
En 2019, levons glorieusement notre fourchette pour rendre hommage au bon goût de chez Ashton. À nos folies, nos gourmandises, nos gâteries, puis à tous ceux qui, comme nous, sont amateurs de la poutine qui fait la fierté de Québec. Chez Ashton, bon à tout coup depuis 50 ans.
Présentement, BMW Ville de Québec et BMW Lévis vous offrent 4 pneus d'hiver à l'achat ou à la location de modèles 2019 en inventaire. Profitez de taux aussi bas que 1,9% et recevez en plus un crédit pouvant aller jusqu'à 3000 $. Voir détails en concession. BMW, le plaisir de conduire.
Les gars, confiez donc votre look au salon Blades Barbier. On vous rase avec serviettes chaudes, on vous coiffe à la lame, au ciseau ou au clipper. Vous voulez améliorer votre look ou en créer un nouveau? Venez rencontrer nos artistes de la coupe et du rasage. Eux autres, ils vont savoir quoi faire avec votre belle face. Et tant qu'à y être, offrez-vous donc le rasage royal, un rasage en 17 étapes. Profitez de nos nombreux spéciaux sur les pommades et crèmes à barbe. Les gars, arrêtez de chercher le salon parfait pour vous et surtout, faites pas ça vous-même. Confiez votre look à Blaise Barbier, aux Galeries de la Capitale.
Vous avez besoin de pièces pour votre voiture? Pièces d'auto économique vous offre toutes les grandes marques nationales au meilleur prix. Pourquoi payer trop cher ailleurs? Pièces d'auto économique, c'est maintenant 5 magasins, dont un tout nouveau à Saint-Georges et une boutique en ligne à pièceséconomique.com.
Marie-Mé, une nouvelle ère, un nouveau spectacle. À la salle Albert Rousseau de Québec. Marie-Mé, une artiste incomparable, un spectacle impressionnant, avec ses plus grands succès revisités et ses nouvelles chansons. Les 6 et 7 mars, 24 et 25 avril, 28, 29 et 30 mai. Billets sur marimé.com.
Les stations Cogeco présentent le succès économique du jour.
Gestion Agria a lancé un programme de 13 millions de dollars pour la réduction des gaz à effet de serre et l'optimisation de l'usage des pesticides et fertilisants. Organisme sans but lucratif, Agria est formé de la firme Orto de Lévis, des fermes Trijardin de Saint-Léonard-d'Aston et de la ferme Jean-Noël Gagné de Saint-Bernard-de-Beauce.
Le succès économique du jour, une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec et Cogeco Média.
L'amorce avec Jean-Simon Buis. Lundi au vendredi, 5h, au FM 93.
5h19 dans l'amorce. Merci d'être avec moi. On est mercredi le 11 décembre 2019. À la météo, de bonnes nouvelles, somme toute, parce qu'il va y avoir du soleil dans les prochains jours. Par contre, oubliez les températures qu'on a eues hier. Là. On a eu un beau 7 degrés au mercure. Là, surdescendu de façon assez drastique. On est à un maximum de moins 9 aujourd'hui, mais avec du soleil. Demain, jeudi, moins 10 le maximum avec du soleil également. Vendredi, des nuages avec moins 3, donc les températures qui vont être un petit peu plus douces. Pour le week-end d'ailleurs, samedi, 2 degrés, on devrait monter au-dessus de zéro avec de la neige ou de la pluie. Et présentement, on a moins 12 à Québec avec un bon vent. On ressent, selon le refroidissement éolien, à peu près moins 18. Bon matin, Dan Pou.
Salut, Jean-Simon.
On reconnaît plus le Canadien de Montréal.
Le Canadien avait perdu 8 matchs de suite, mais depuis ce temps-là, c'est 3 victoires en 4 matchs. Et hier, c'est quand même une grosse victoire. C'est une victoire à Pittsburgh contre les Pingouins. Et là, les méchantes langues vont dire « Ouais, mais Crosby jouait pas. » C'est pas grave. Même quand Crosby joue pas, les Pingouins, c'est une bonne équipe. Et c'est une équipe qui continue à gagner. C'est pas une équipe qui s'est effondrée parce que Crosby a dû s'absenter dans les dernières semaines. Donc, c'est un gros deux points sur la route pour le Canadien. Armia, Tatar, Weber et Gallagher ont tous réussi un but, une passe dans le match. Donc, pas de chicane. Tout le monde, un but, une passe. Et c'est Gallagher qui a complété dans le filet désert. Le Canadien se retrouve à un petit point des Panthers et d'une place en série en date de ce matin. À peu près toutes les équipes impliquées dans la course avec le Canadien jouaient hier. Tampa, Toronto, Buffalo et Caroline ont gagné. Donc ça change rien. Au moins, okay. Le Canadien a gagné son match.
Ouais.
A pas perdu de terrain. On n'a pas gagné. Ça bouge pas, comme tu dis. Mais Floride et les Rangers ont perdu. Donc ça, le Canadien a pris un avantage sur ces deux équipes-là. Et dès ce soir, il y a un autre match. Est-ce qu'on va voir Caden Primeau devant le filet ce soir au Centre Bell? Les Sénateurs qui s'amènent. Et les Sénateurs, dans la séquence de 8 défaites de suite, il y avait eu un match perdu contre les Sénateurs.
Ouais.
Au Centre Bell, en prolongation. C'est dans la séquence... au milieu de la séquence, il me semble qu'il y avait eu un match, okay, contre les Sénateurs. Donc ça, c'est un deux points importants encore. Ce... Mais là, deux points importants, ça va devenir un cliché. Là.
Ouais.
On est au milieu décembre, puis jusqu'au début avril, pour à peu près toutes les équipes que je viens de te nommer, on va dire que c'est un deux points important. Puis il y a eu une drôle d'histoire survenue hier matin dans la Ligue nationale. C'est le congédiement sans, ouais, avertissement de Jim Montgomery, l'entraîneur-chef des Stars, pour un comportement non professionnel. Et tu sais que dans les dernières semaines, il y a des joueurs qui ont sorti des histoires à propos de certains entraîneurs. Et là, il y a des équipes qui ont dû prendre des décisions. Bill Peters a été mis à l'écart, on a enquêté. Finalement, je pense que par lui-même, il a dit « je vais démissionner ». Après ça, Mark Crawford, l'entraîneur adjoint des Blackhawks, est actuellement sous enquête. On n'a toujours pas de nouvelles. Ouais. Ça fait quasiment une semaine. Mais hier, Jim Montgomery à Dallas, bang, l'équipe allait bien. 17-11 et 3, leur fiche. C'est pas parce que ça allait mal sur la patinoire. Okay. Et le propriétaire dit il n'a pas respecté les valeurs de l'équipe. Comportement non professionnel, il est congédié. Donc,
c'est vraiment une vague, là.
Oui, absolument.
Ça devrait peut-être assister à un changement de mentalité, de façon de faire.
Absolument. Et dans la réunion des gouverneurs à Pebble Beach, en Californie, cette semaine, le commissaire Bettman a dit il y aura un code d'éthique maintenant dans la Ligue nationale et chaque équipe devra nous informer de problèmes à l'interne. Donc, ça continue sur cette vague, comme tu le dis si bien, lancée suite au congédiement de Mike Babcock avec les Leafs de Toronto.
Merci Dan.
À tantôt.
À tout de suite. À la une du soleil ce matin, c'est pas la première fois qu'on en parle dans les derniers mois, il y avait eu des cas, notamment à l'Université Laval, des cas d'intoxication possible au GHB, fameuse drogue du viol là, qui sévit malheureusement beaucoup dans les dernières années. On en entend plus parler, on dirait que bon, avant on connaissait le phénomène là, des jeunes filles, par exemple, qui se font droguer dans un bar, verser du GHB dans leur verre à leur insu, se retrouvent à l'hôpital avec de fortes intoxications, des effets qui sont très graves, tu perds la carte complètement, ils appellent ça « wipé ». Dans le langage des consommateurs de GHB, parce qu'en plus, il y a des consommateurs qui en prennent volontairement. Mais là, à la une du Soleil ce matin, article de Marc Allard concernant des vagues d'intoxication dans les bars de Lévis. Donc, sur la Rive-Sud aussi, ce serait un problème assez important. Ça ferait trois vagues dans la dernière année où est-ce qu'on retrouve des jeunes femmes qui sont souvent en gang, pas seules, donc elles ne sont pas toutes seules dans le bar. Et là, tout à coup, la jeune femme va s'effondrer en plein milieu du bar. Ses amis vont se rendre compte, évidemment, que ça va pas bien, qu'elle fait le mauvais coton, vont l'amener à l'urgence. Et là, ça fait plusieurs fois que ces femmes-là, on se rend compte qu'il y a des cas d'intoxication au GHB. Première vague, on parle de l'hiver dernier. Ou est-ce qu'à toutes les fins de semaine, on dit que dans les, notamment où, à l'Hôtel Dieu de Lévis, là, on voyait des femmes comateuses arriver à tous les week-ends à l'urgence. Après ça, on dit que pendant le printemps, ça a été un peu moins pire. Il y a eu un certain relâchement avec ce genre d'intoxication-là. Cet été, avec le festival d'été, le festival, les événements en tant que tels, une autre vague d'intoxication. Et là, c'est l'automne dernier qu'il y en a eu beaucoup. Mais on dit que cet été, c'était surtout des intoxications volontaires. Sauf que l'hiver et l'automne, là, ça semble être des gens qui se font intoxiquer à leur insu. On parle de 66 personnes qui ont été transportées en ambulance depuis décembre 2018. Des jeunes femmes âgées de moins de 30 ans, de moins de 25 ans, et qui souvent n'ont pas beaucoup bu, n'ont presque pas bu d'alcool. Et là, on les retrouve là, complètement intoxiquées, à perdre la carte complètement en lien avec ça. Beaucoup disent apparemment par la suite, après avoir été traités, qu'ils avaient leur verre avec elles, qu'ils comprennent pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est un phénomène qui est inquiétant. Est-ce que c'est en recrudescence réellement ou bien on s'y intéresse plus? Toujours ça la question qu'il faut se poser, parce que c'est un phénomène qui a toujours existé, ce type d'intoxication-là. Mais force est d'admettre que sur le terrain, les intervenants sont conscients qu'il y a une vague importante d'intoxication au GHB, Rive-Nord et Rive-Sud confondus. 5h25, merci d'avoir été avec moi dans l'amorce. Dans quelques minutes, c'est Bouchard en parle. On se reparle demain matin dès 5h. Ciao!
Les meilleurs moments sont disponibles maintenant sur fm93.com. Bouchard en parle commence après cette courte pause.